à mon tour de remercier Thomas Römer et ses collaborateurs pour l'invitation à ce colloque et pour l'organisation de ce colloque fort intéressant et enrichissant. Je sais que ça fait quelques années que Thomas aurait souhaité que je puisse parler ici, et puis cette année, je n'avais plus aucune raison de refuser, puisqu'on parlait d'un thème qui m'est important. Vous avez, je pense, un, comment vous dites, explicatif ou handout, dans lequel vous trouverez le plan un peu plus détaillé de mon exposé. Je vais tenir brève les préliminaires qui porteraient sur le rapport qu'il y a entre des perspectives disciplinaires spécifiques, que l'on soit vétérotestamentaire ou judaïsant, ça va comme ça? D'accord. Ou que l'on soit assyriologue, évidemment, spécialiste du paléo-babylonien, ou que l'on soit, comme c'est mon cas depuis une dizaine d'années maintenant, historien comparatiste des religions. On a une approche un peu différente des objets. L'objet est différent, le regard est différent, les questions que nous posons sont différentes si nous nous interrogeons sur les couronnes des lettres d'Akiva ou si nous nous interrogeons sur quelques mots ou un texte ou un rouleau ou un codex ou un milieu producteur de littérature. Il y a, je dirais, des focales différentes. Et forcément, lorsque l'historien comparatiste des religions envisage des textes qui partent de l'Oudloul, donc du paléo-babylonien, et qui vont aujourd'hui jusqu'au Fihrist de An-Nadim du Xe siècle de notre ère, les observations vont être un peu plus grossières que si l'on étudie tel ou tel mot ou verset avec une analyse microscopique. Cela dit, un regard portant sur des documents dont l'origine s'étale sur plus d'un millénaire, s'il va forcément produire des observations un peu plus grossières, il peut quand même peut-être aussi démontrer ou nous rendre attentifs à des continuités et à des transformations qui échapperaient peut-être à l'étude d'un seul document individuel ou d'un seul courant. Première approche, je vais partir du thème de l'ange interprète chez Zacharie, sur lequel je me suis penché quand j'étais encore bibliste, il y a longtemps. Je commencerai par établir une distinction entre les anges messagers, les anges médiateurs, des anges interprètes et des anges révélateurs. Ce sont des nuances dans les fonctions, des différences de fonctions. Et je pense que quand on parle, je ne dis rien de nouveau, là, quand on parle des anges et de la croissance, de l'importance croissante du thème des anges dans le judaïsme ancien, il y a un processus historique qui, de messager occasionnel ou à défaut, mais pas du tout obligatoire, va mener à une notion que des anges sont obligatoires pour la transmission d'un message du monde divin au monde humain. Donc c'est ce processus-là, et ensuite le rôle particulier de l'ange révélateur que j'aimerais étudier un petit peu avec vous. Il y a évidemment aussi dans ce processus que l'on pourrait appeler un processus de différenciation dans l'imaginaire religieux. Il y a une différenciation quant aux fonctions. Certains anges deviennent plus spécialisés à l'intérieur de ce monde plus en plus foisonnant des anges, il y a des fonctions très particulières. Et l'ange interprète et l'ange révélateur sont deux exemples de ces êtres avec un mandat et une fonction, disons, très spécifique, particulière. Avant d'arriver à l'ange interprète dans le livre de Zacharie, arrêtons-nous juste une demi-minute à ce que l'on pourrait appeler le modèle traditionnel de la communication, du mode de communication tel qu'on envisageait le mode de communication dans la prophétie classique. C'est un prophète qui est transporté lui-même en vision vers la cour divine où il assiste aux délibérations en présence de la divinité. Un roi 22 est l'exemple classique que l'on cite souvent à ce propos. Ce concept est relativisé en nombre 12, où Yahvé opère une distinction entre les prophètes, avec qui il communique en rêve et en vision, et Moïse, avec qui il est en contact face à face, bouche à bouche, si on lit dans l'original, sans médiation ni intermédiaire. Un autre concept, au contraire, opère, pour ainsi dire, un dédoublement de l'instance de médiation. C'est lorsqu'on se met à distinguer entre, d'une part, un messager appartenant au monde divin, un ange, et, d'autre part, le prophète en tant que messager du côté des humains. On a là donc comme un passage d'une communication sur le mode tripartite, on pourrait dire, vers une communication sur le mode quadripartite. L'ange interprète dans le livre de Zacharie occupe à ce propos une position que l'on peut qualifier de charnière. Dans le premier chapitre, à partir du verset 8, vous avez je prends seulement cette première vision, où il est d'abord question d'un cavalier que le prophète va ensuite adresser comme « mon Seigneur ». Ce même homme est ensuite désigné par le prophète narrateur comme « l'ange qui me parlait », voire « l'ange de Yahvé ». Et au fur et à mesure du développement du cycle de vision, à l'origine 5, ensuite 7, finalement 8, au fur et à mesure du développement de ce cycle, la locution « l'ange qui me parlait » devient la norme et établit ainsi l'ange dans une fonction précise, à savoir celle de l'herméneute, qui explique au prophète le sens de ce que celui-ci, le prophète, voit en vision. Le cycle des visions de Zacharie fonctionne également comme un pivot pour l'interprétation prophétique de l'histoire. Après un temps marqué par la colère divine, suivra désormais un temps de pitié et de réhabilitation pour Jérusalem. Et ce retournement est expliqué de différentes manières. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais les images utilisées dans ces visions emploient des images par ailleurs courantes dans l'Empire perse et les utilisent, les réinterprètent, les interprètent en fonction de ce retournement historique que l'on fait remonter à un changement de volonté de Yahvé. Quant à l'ange interprète, qui souligne en 2:12 que Yahvé l'a envoyé avec autorité, il représente lui-même une sorte de pivot typologique dans l'ordre des anges, entre les anges messagers traditionnels et les anges révélateurs de type apocalyptique. Il occupe une fonction et une position historique intermédiaire. Les chercheurs considèrent généralement cette position intermédiaire comme un indice plaçant le livre de Zacharie, et notamment ce cycle de vision, au seuil du passage de la prophétie à l'apocalyptique. Maintenant, ce processus, ce seuil d'un mode de pensée vers un autre, a évidemment une préhistoire et une post-histoire. Je ne pourrais pas parler de la préhistoire ici, qui, à mon sens, remonte au moins jusqu'à l'Odlol Belnemeki qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. La chose la plus importante dans cette composition paléo-babylonienne, dans le contexte de cette présentation, c'est que là aussi, il y a en rêve des personnes qui apparaissent, ou des figures à forme humaine, qui apparaissent au souffrant et qui lui annoncent son rétablissement qui s'approche. Et ce qui est intéressant pour mon propos, c'est que la composition Ludlul Belnemeki a une sorte de fonction qu'on a appelée propagandiste, dans le sens que qui lit toute la composition va comprendre qu'il vaut mieux mettre sa confiance et sa vie dans les mains de Marduk et de la communication avec Marduk plutôt que dans les mains du dieu personnel. Personnel. Donc il y a comme le passage d'une affiliation religieuse, qu'on pourrait dire ici, donc au dieu personnel, vers une autre affiliation prioritaire qui est celle à Marduk. La post-histoire concerne le passage des anges interprètes aux anges, ou de l'ange interprète au rôle de ange révélateur. Et c'est dans le livre de Daniel, dans le chapitre 8 et 9, que l'on peut observer ce passage. Le plus connu de ces anges, encore un peu interprète, mais il va devenir révélateur, est sans doute l'ange Gabriel. On a parlé de Michael avant, moi-même je parlerai surtout de Gabriel. Gabriel est attesté, entre autres, dans le livre de Daniel, dans le livre des Jubilés, dans une inscription que les chercheurs désignent sous le titre de « Vision de Gabriel », récemment découverte et publiée, dans l'Évangile de Luc, vous savez, dans le Coran. Et les attestations dans le livre de Daniel montrent clairement que cette figure de Gabriel est à comprendre encore comme une concrétisation de l'ange interprète de Zacharie, notamment lorsqu'une voix lui ordonne « Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci », c'est-à-dire au visionnaire, et le rôle de cet ange est à faire comprendre quelque chose au visionnaire. « Comprends, fils d'homme, dit-il, car la vision est pour le temps de la fin », c'est l'explication. L'origine divine de cet ange est soulignée par la réaction du visionnaire, qui tombe en léthargie et à terre comme face à une hiérophanie. L'ange touche alors le visionnaire, le remet debout et lui dit « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère ». Et après avoir fourni son explication, il conclut « Quant à la vision des soirs et des matins telle qu'elle a été dite, c'est la vérité ». Voilà un terme lourd de sens, c'est la vérité. « Pour toi, garde secret ». La vision, car elle se rapporte à des jours lointains. Donc, cette vérité va être dévoilée seulement à un moment ultérieur. Il y a là une tension que nous retrouverons plus tard dans d'autres écrits entre la prétention à la vérité et le caractère secret de celle-ci. Dans le chapitre 9, l'ange intervient une deuxième fois auprès de Daniel et le fait qu'il arrive en vol rapide au moment de l'oblation du soir confère à cette scène une visualité supplémentaire. Encore une fois, le rôle de l'ange est d'instruire le visionnaire, ou comme il dit lui-même, de lui conférer l'intelligence. J'ai malheureusement pas eu le temps de mettre encore chapitre 9 ici, excusez-moi. Le propos qui suit se lit presque comme un protocole de communication. Je cite, verset 23 du chapitre 9 de Daniel, « Au début de tes supplications ». Donc il y a d'abord supplication, « a surgi une parole, et je suis venu te l'annoncer, car tu es l'homme des prédilections. Comprends la parole et aie l'intelligence de la vision. Donc il y a comme une progression de compréhension et de révélation dans ce processus de révélation. On saisit d'emblée qu'un tel protocole ne sert pas seulement à décoder le message, mais aussi à conférer une certaine aura au visionnaire, qui, lui, est jugé digne de cette rencontre avec l'ange. Et nous venons de là, donc au troisième point de mon explicatif, où j'ai résumé rapidement les explications qui sont données dans la littérature secondaire à cette importance croissante des anges, et notamment des anges révélateurs. Il y a une interprétation théologique qui va insister sur le fait que la notion de Dieu, la représentation de Dieu, change, que Dieu est de plus en plus éloigné, de plus en plus transcendant. Il y a une interprétation en termes d'évaluation de compétences mentiques. Penser un ange révélateur implique que la notion au savoir qui vient d'un Dieu qui est de plus en plus lointain implique celle d'un accès restreint et indirect. Il y a une interprétation épistémologique, c'est-à-dire il y a des degrés de savoir, et plus vous êtes initié, plus vous êtes capable, plus vous allez pouvoir vous rapprocher de ce savoir du divin. Et là, on touche évidemment à la question qu'on a abordée rapidement avant de la notion de mystique. C'est justement, les mystiques pensent qu'ils ont la possibilité de faire ce mouvement vers Dieu, alors que l'idée de l'ange révélateur est précisément le mouvement inverse. On ne pense pas qu'un homme puisse y arriver là, mais qu'il faut il faut la communication dans l'autre sens. Il y a des interprétations littéraires, évidemment, qui considèrent ces explications angéliques comme des relectures de savoir antérieur. Il y a une interprétation psychologique qui considère que parler d'un ange révélateur renvoie au dédoublement de la personnalité du visionnaire, du prophète ou de l'apôtre, et que cet ange est en quelque sorte son alter ego, sa voix intérieure, différentes explications qui sont données. Ce qui me frappe quand on regarde, on fait un peu le catalogue des explications, c'est qu'on semble moins s'interroger sur la fonction sociale du concept d'ange révélateur, et c'est cela qui, pour moi, c'est cela que je voudrais encore aborder maintenant avec vous dans le temps qui reste, 10 minutes, d'accord. Ça ira, peut-être. Parcourant un certain nombre de textes, j'ai fait un petit choix où les anges révélateurs ont un rôle important à jouer. Le livre des Jubilés, évidemment, est une référence très importante au milieu du deuxième siècle avant, où vous avez eu ce texte maintenant déjà pour quelque temps, vous avez pu lire. On distingue entre, d'une part, une catégorie d'anges de la face et un ange de la face en particulier, qui lui est l'ange révélateur, qui joue un rôle en particulier dans les deux premiers chapitres, dans la narration cadre, mais qui apparaît aussi de temps en temps à l'intérieur du livre. Cet ange révélateur détient d'une part les tables calendriques, les tables de la répartition légale et certifiée des années en semaines et en jubilés, depuis la première jusqu'à une nouvelle création. Ces tables sont aussi appelées tables célestes. Elles contiennent un calendrier strictement solaire qui ne supporte aucun dépassement, comme il est dit en 6.31, et dont l'ange souligne l'origine supérieure. Il dit en 6.32, « Cela ne vient pas de moi, mais j'ai devant moi un texte écrit. » Donc, l'ange lui-même doit se justifier de ne pas dire n'importe quoi ou ce qui viendrait de lui, mais il a une référence textuelle, les tables célestes, auxquelles il se tient et qu'il ne fait qu'appliquer ou communiquer plus loin. Selon le cadre narratif, l'ange dicte d'autre part à Moïse et lui demande de mettre par écrit le récit de l'histoire sacrée, depuis la création jusqu'à la construction du sanctuaire de Dieu bâti au milieu des Israélites pour l'éternité, dit 1.27. Le lecteur de Jubilé, qui connaît les livres de la Torah attribués à Moïse, comprend que la version rapportée en Jubilé se veut à la fois concordante avec la Torah traditionnelle, mais présente néanmoins un texte supérieur, révélé en particulier à Moïse. L'ange déclare en 6.22 qu'il a lui-même écrit le livre de la première loi que j'ai écrit pour toi. Et il explique qu'il a écrit pour Moïse, à ton intention, 30.12, certains passages dans les paroles de cette loi. J'ai écrit tout ce récit, 30.21, à ton intention, encore une fois. Les chercheurs parlent de « rewritten Torah »,« rewritten Bible »,« rewritten Torah », une Torah réécrite à ce propos. Et je pense que l'ange révélateur, ici, cette figure, sert précisément à légitimer cette réécriture. Celle-ci est, comme vous savez, une interprétation très particulière de la Torah, au service d'intérêts et d'un groupe particulier, lié notamment au statut des Lévites, au service d'un groupe qui se distingue à la fois des détenteurs de la tradition, de la Torah traditionnelle et des milieux énochiques. Et je pense qu'on aurait intérêt, en plus de toutes les explications que l'on a déjà énumérées, lorsqu'on veut comprendre cette carrière de la figure de l'ange révélateur, de porter son attention à ce que Hindi Naiman a appelé les stratégies d'autorisation qui sont dans ces textes et que la figure de l'ange révélateur sert à autoriser un écrit pour la communauté ou le groupe ou l'auteur qui défend le point de vue de cet écrit. Je vais passer rapidement, je vous ai mieux préparé les choses que ce que je pensais, donc il n'y a pas seulement les deux premiers chapitres, il y a ce qui est souligné, cela ne vient pas de moi, je vous ai rendu attentif, ou dans le chapitre 30, donc la référence aussi aux tables célestes. Je vais passer rapidement sur Hazon Gabriel, une inscription récemment trouvée, publiée, de laquelle notre collègue Amidovic Patch prépare une édition. On s'en réjouit. Simplement pour dire que ce texte, qui probablement date de la deuxième moitié du 1er siècle avant ou de la première moitié du 1er siècle de notre ère, donc Zeitenwende, on dirait en allemand, que ce texte est évidemment important comme un document qui se situe entre Daniel Jubilé et l'évangile de Luc, dont vous connaissez probablement les références à Gabriel. Mais je vais aussi passer par-dessus l'évangile de Luc, où Gabriel joue, vous savez, les premiers chapitres concernant l'enfance de Jean-Baptiste et de Jésus et l'annonce de leur naissance, un rôle important, pour venir au Coran. Et c'est là que le comparatiste, en quelque sorte, enjambe les siècles et s'intéresse autant, disons, à ce qui vient après qu'à ce qui venait avant. Il est bien connu que selon la tradition islamique reçue, la révélation coranique aurait dans son ensemble été transmise au prophète Mohammed par l'ange Gabriel, Djibril. C'est sans doute cette façon de voir, est sans doute le produit d'une sorte de relecture canonique qui harmonise d'évidentes différences qu'une lecture attentive peut déceler entre les sourates en ce qui concerne le processus de révélation. Selon une tradition assez ancienne, le prophète lui-même, interrogé sur la manière dont il recevait ses intuitions, aurait déclaré que parfois il voyait un ange sous la forme d'un homme, pas toujours, parfois. Et un des plus éminents transmetteurs du hadith, Al-Bukhari, distingue trois types de réception inspirée par ordre croissant d'importance: le rêve, la solitude recherchée et la rencontre d'un ange qui, elle, est alors qualifiée de transmission de la vérité. C'est donc, semble-t-il, le mode de transmission supérieur, qualifié justement, et c'est vraiment la vérité qui est en jeu selon la perspective de Al-Bukhari, et nous allons le voir aussi du Coran. Je vais me limiter dans ce qui suit à trois sourates du Coran et commencer par la sourate 81, la référence à un noble messager doué de force auprès du maître du trône inébranlable. C'est ce messager que la tradition identifie à Gabriel et à qui, en effet, les épithètes conviendraient tout à fait. Dans cette sourate, cette référence sert d'argument contre ceux qui pensent que Muhammad serait possédé, probablement par un djinn, Majnoun. Votre compagnon n'est pas un possédé. Il l'a vu à l'horizon lumineux. Ceci n'est pas la parole... Mais tu as tout à fait dans ton droit, évidemment. Ceci n'est pas la parole d'un démon lapidé. Votre compagnon n'est pas un possédé. Il l'a vu. Et de même, dans la sourate 53, on soutient que votre compagnon n'est pas égaré, il n'est pas dans l'erreur, il ne parle pas sous l'empire de la passion. C'est exclusivement une révélation qui lui a été inspirée. Le puissant, le fort, la lui a fait connaître. De nouveau, ce sont des épithètes qui conviendraient tout à fait à Djibril, Gabriel. La suite de la sourate est un peu plus énigmatique en ce qui concerne les sujets énoncés. Celui qui possède la force s'est tenu en majesté alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Puis il s'approcha et il demeura suspendu. Il était à une distance de 2 portées d'arc, ou moins encore, et il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla. Alors le Coran utilise souvent ce genre de formule où on doit bien réfléchir quelle pourrait être la répartition des pronoms. À mon avis, le plus probable, c'est que Dieu révéla à l'ange ce que l'ange révéla à Mohammed, et ainsi on assure donc la fidélité de la transmission dans les deux processus. La référence la plus explicite à Gabriel comme ange révélateur, là encore dans un contexte de contestation, se trouve dans la longue sourate 2, qui est une sorte de synthèse du Coran et peut-être bien une de ses formes antérieures. Lorsqu'on leur a dit, je cite, « Croyez ce que Dieu a révélé », ils ont répondu, « Nous croyons à ce qui nous a été révélé ». Mais ils sont incrédules à l'égard de ce qui vint ensuite et qui est la vérité, confirmant ce qu'ils ont déjà reçu. Évidemment, il est question là du Coran en opposition aux révélations antérieures. Et le texte, et c'est ça qui est remarquable, hein, le texte continue sur une question: qui est l'ennemi de Gabriel ? C'est lui qui a fait descendre sur ton cœur, avec la permission de Dieu, ce qui confirme ce qui était avant lui. Donc le Coran. Le Coran confirme ce qui était avant lui et Gabriel a fait descendre le Coran. Direction et bonne nouvelle pour les croyants. Et ensuite, celui qui est ennemi de Dieu, de ses prophètes, de Gabriel et de Michael. Donc, si vous êtes ennemi de Gabriel, de Djibril, vous l'êtes aussi de Dieu. Si vous l'êtes de Mohammed, vous l'êtes de Djibril et vous êtes de Dieu, etc. Vous voyez que ce texte contient une polémique importante qu'il faut scruter un peu pour comprendre que la révélation par l'ange est un argument qui veut imposer l'autorité du nouveau texte contre des réserves, contre des critiques qui seraient soulevées. Il me manque le temps, malheureusement, c'est les règles du jeu, pour parler de Mani. Mani, on reviendrait un petit peu en arrière. Mani, l'apôtre de Jésus-Christ, comme il se déclarait lui-même, il s'intitulait lui-même, et qui parle de son jumeau, qui, déjà quand il avait 4 ans, l'aurait protégé, l'aurait ensuite éduqué, l'aurait accompagné dans la communauté de son père, qui était une communauté baptiste, qui, à 8 ans, lui aurait dit l'enseignement nouveau qu'il fallait ensuite proclamer, tout en lui demandant de ne pas le proclamer, mais de le garder pour lui jusqu'à l'âge de 24 ans, lorsqu'il arrive à l'âge adulte, et pour, à ce moment-là, constituer une nouvelle communauté, un nouveau mouvement. Et avec cela, malheureusement, là, je n'ai pas pu vous présenter là, les détails, je reviens aux conclusions. Une approche, on pourrait dire fonctionnaliste, de la figure de l'ange révélateur pourrait conclure que cette figure sert à légitimer des savoirs nouveaux, des savoirs qui sont contestés dans un champ où plusieurs révélations sont en compétition l'une avec l'autre. Dans ce contexte, la référence à l'ange révélateur peut servir à plausibiliser et à légitimer le savoir nouveau, une interprétation divergente d'un savoir qu'on avait déjà mais qu'on réinterprète, un porteur nouveau, un écrit nouveau, ou, et là les textes sur Mani auraient été déterminants, l'autonomie d'un mouvement qui prend sa liberté et son indépendance par rapport à ses sources et ses origines. Ces 5 facteurs qu'un sociologue pourrait qualifier de cadre structurel à tout processus de différenciation de nouveaux mouvements religieux de type prophétique apparaissent dans nos sources de manière plus ou moins explicite et reconnaissable. Ils ne s'expriment pas toujours et pas seulement au travers de la figure de l'ange révélateur. Loin de moi l'idée que les textes cités qui proviennent de contextes fort différents reflètent tous exactement la même problématique et le même processus. Cependant, la continuité et l'intensification du motif méritent que l'on y réfléchisse et qu'on réfléchisse non seulement aux particularités contingentes de chaque cas, mais également à la problématique structurelle qui les relie entre eux. Il va de soi qu'une fois reconnue la logique structurelle dans une perspective d'histoire sociale, l'exégète retournera au texte individuel pour examiner dans le détail lequel des facteurs mentionnés s'y reconnaissent de manière explicite et claire. Je vous remercie.